SPU 별의 유지유지라.
Dans cette release, une pièce de 2 euros, une grosse orange, un business plan très lean et un couscous boulette comme chez mamie. Nous recevons Johan Ferré et Infested Grunt, journaliste spécialisé dans les opérateurs mobiles. Et j'espère que tous les deux vous avez mis quand même vos téléphones sur silencieux. Non, parce que là, cette fois, franchement, je serais intraitable. Bon, allez, c'est parti. Bonjour Infested Grunt.
Bonjour Xavier.
Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Ouais, qui nous est par satellite, très analogique aujourd'hui.
Ouais, donc par Skype, c'est presque pareil.
C'est presque pareil. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi pour qui la connexion avec fil est devenue totalement désuète. Quand le téléphone mobile est arrivé, il était cher. Déjà, le téléphone fixe n'était vraiment pas donné quand de la province tu souhaitais appeler la région parisienne. Et ne parlons pas des tarifs de nuit que tu attendais fort tardivement, histoire qu'Internet ne te ruine pas, tenter de charger un email. Commencer par faire chauffer le modem après minuit 30 car tu avais 65% de réduction sur le tarif normal, bah, c'était pas rien. Alors évidemment, quand le téléphone cellulaire devint grand public, l'opérateur historique et les deux opérateurs privés ne se privèrent pas d'en faire une vache à lait hyper rentable. Et pour cela, ils utilisèrent plusieurs astuces. La première d'entre elles était le contrat d'abonnement longue durée. Effectivement, il était possible que de prendre des abonnements de 12 ou 24 mois. La deuxième astuce était la reconduction tacite. Ou plus exactement, que la période où il était possible de résilier son contrat était très courte et était indiquée en tout petit caractère sur le contrat. En gros, il fallait que tu postes un recommandé entre le dimanche matin et le dimanche midi, et uniquement si c'était un jour très ambre. La troisième astuce était la location-vente du téléphone. Le terminal n'était achetable qu'en boutique d'opérateur mobile, lequel le vendait par mensualité. Mais le client n'avait pas la totale propriété du téléphone, car celui-ci était sciemment bloqué pour n'être utilisable que sur un seul opérateur mobile, celui qui te l'a vendu forcément. Ce qui n'incitait pas à changer d'opérateur mobile. Ces trois astuces ont permis à ces trois opérateurs de maintenir des prix importants pour leurs forfaits, d'engranger de plantureux bénéfices, tout en construisant chacun de leur côté un réseau mobile qui, avouons-le, est performant et coûteux. Je me souviens aussi du temps où on avait besoin de matérialiser physiquement une option immatérielle. Je t'explique. En 1998, pour mon abonnement chez Bouygues Télécom, j'avais pris l'option « présentation du numéro appelant ». Oui, parce qu'à l'époque, cette fonction était payante, comme la possibilité d'avoir une boîte vocale. Eh ben, crois-le ou pas, il fallait que j'aille acheter une boîte en carton dans un magasin franchisé par l'opérateur, que je remplisse un contrat dedans, document que je renvoie à l'opérateur, et franchement, vu le volume de la boîte, on s'attendait à autre chose qu'à trois feuilles de papier. Je me demande comment des commerciaux ont pu avoir cette idée saugrenue de transformer une option dont l'ouverture aurait pu se faire par un simple coup de fil au point qu'elle soit une boîte en carton et un traitement papier. Enfant du futur immédiat, néanmoins, je dois te l'avouer, j'ai moi aussi, entre autres crimes contre l'humanité, participé à cette grande orgie sur les services de téléphonie mobile. Ainsi, en 2004, pour deux des trois opérateurs du marché, j'ai conçu un ensemble de tonalités d'attente, aussi dites « ringback tones ». Oui, il était devenu possible de remplacer le tut-tut pendant que le téléphone de ton correspondant sonne par quelque chose comme...
Mais c'est quoi ce truc, Gisèle?
Bah, c'est une attente gratuite, le temps qu'on décroche, quoi.
Mais c'est nul! Remettez-moi le vieux bip! Ah!
Oui, le texte est bien de moi, mais c'est pas moi qui imite les vampes, c'est Daniel Herzog, une des voix des guignols. Enfant du futur immédiat, il faut se souvenir... Qu'en 2012, le marché de la téléphonie mobile en France était partagé entre trois concurrents qui se targuaient d'un chiffre d'affaires extrêmement confortable. Si tu voulais de l'internet dans ton téléphone, il t'en coûtait 100 euros par mois de forfait sans possibilité de s'en servir comme modem, cas vécu et souvent je débordais. Et puis, fut attribuée une quatrième concession de téléphonie mobile. Et donc est arrivé Free Mobile. Et ces temps de vache grasse furent résolus.
you a call. My time is running out, babe. Never call at all. My life is so lonely. Sitting by my telephone.
John Mayer's Blues Breakers, Telephone Blue. De 1966, et à l'époque, ils avaient encore Eric Clapton en guitare. Cette émission de CPU, nous aurions aimé la faire beaucoup plus tôt. Et au lieu d'interviewer les charismatiques patrons de Free, comme le fait l'ensemble de la presse, nous voulions interviewer un ingénieur qui a la main dans le cambouis. Nous avions suffisamment de contacts au sein du groupe Iliad pour avoir un technicien pour en parler, mais malheureusement la communication du groupe Iliad étant très verrouillée, nous avons eu une fin de non-recevoir pour parler à l'antenne avec une personne du côté technique. C'est dommage surtout qu'on ne demandait pas Rani Assaf. Mais nous avons le plaisir d'avoir deux journalistes spécialisés dans le domaine de la téléphonie mobile. Infacet Grunt, journaliste pour Les Échos du Net.net, contributeur sur Radio FMR dans CPU, mais aussi le samedi dans Crossover, spécialiste manga toute taille de bonnet, égoutteur professionnel en bière artisanale, et donc par satellite Johan Ferré, journaliste de freenews.fr, fondateur de cafégaming.fr et participant au reclassement point de vue social de Gladys Truman. La blague est lourde de référence, les auditeurs iront chercher, mais on retrouve encore les No Life là, comme d'habitude.
CPU, carré et petit utile.
Et on va essayer d'éviter quand même les questions un petit peu trop techniques, puisque vous y connaissez plus en rock band et en bière artisanale qu'en codage octogonal QAM.
Oula. Ouais, non, je crois qu'on confirme là.
Johan?
Oui. Ouais, ouais. J'approuve complètement.
Alors, pour vous présenter un petit peu, comment chacun d'entre vous est arrivé, en fait, à devenir journaliste sur le domaine d'un opérateur, FAI et mobile? Johan, pour commencer.
Moi, ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait, parce que je me suis retrouvé au sein de Free News. Free News, donc, qui a une structure associative, donc déjà qui a cette particularité-là. Et moi, je me suis retrouvé au début en tant que bénévole. C'était il y a presque 10 ans. C'était aux alentours de 2007-2008. Je suis venu comme ça. Je suis passé. Il y avait de la lumière. Les gens étaient sympas. Et du coup, j'ai participé à la fois à la rédaction du site et au projet TV, vu qu'à l'époque, il y avait aussi une chaîne de télévision affiliée à Free News. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je suis devenu salarié un peu plus tard, 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, en fait, tout simplement.
Infacet Grunt.
Alors moi, pour ma part, j'ai démarré d'abord sur un petit forum qui, à l'époque, était dédié à tous les fournisseurs d'accès Internet. C'était le forum des lesproviders.com qui, déjà à cette époque-là, commençait à analyser les offres RTC, justement savoir qu'à quelle heure il fallait mieux lancer la connexion et autres. Ensuite, petit à petit, il y a eu une scission au niveau des providers où une partie, en fait, s'intéressait beaucoup plus à cette nouvelle technologie qui commençait à se déployer, qui était la DSL. Et le seul truc, c'est que, en fait, le bloc principal des providers, eux, voulaient rester sur le RTC. Donc nous, plusieurs membres, on est sortis de les providers et on a créé Echo du Net en 2004, où là, on s'est intéressé vraiment à toutes les offres, que ça soit le RTC, qui commençait à mourir, mais également les nouvelles offres, c'est-à-dire la DSL avec les systèmes de box que Free a introduit en 2002. Alors au départ, c'était complètement bénévole, associatif. Ensuite, on a réussi à se professionnaliser à partir de 2007. On a vraiment créé une structure privée autour du site. En 2014, on a été racheté par un comparateur d'énergie. et qui s'appelle Selectra et qui maintient en fait Selectra apporte l'énergie, nous on apporte les télécoms.
Ah, pas mal, ouais. On va passer dans ce cas-là au quintuple play un jour.
Fais gaffe, ça faille être un poisson d'avril, ça.
D'accord, ok. Pour en parler un petit peu, qu'est-ce que le groupe Iliad en soit? Il y a d'un côté, il y avait Free, mais de l'autre, auparavant, il y a eu différentes activités. Une activité d'hébergeur, Xavier Niel avait monté World.net, si je me trompe. Mm-hmm. Ensuite, donc, il y a eu... Non, mais moi, je me suis documenté à l'avance.
Ah oui, d'accord.
ensuite, il y a eu le lancement de Free. En même temps, il y a eu une activité d'hébergeur qui a été reconstruite, qui s'appelait Online. Mm-hmm. Xavier Niel avait même tenté avec de créer un moteur de recherche qui s'appelait dire.com.
Mmh. Ouh là, tu remontes loin là, tu remontes là, tu là.
Ah moi je m'en souviens,
là t'as des dossiers là.
Je l'avais essayé il y a 4 ans et la page de garde était encore accessible hein, donc. Mais ensuite ils sont arrivés à la DSL. Comment en fait ils sont retrouvés à songer à être opérateur mobile parce qu'ils étaient quasiment le premier opérateur alternatif sur la DSL.
Oui, là-dessus, c'est vrai qu'ils étaient le premier ou le deuxième, c'était la bataille avec ça a toujours été la bataille avec SFR parce que à ce moment-là, au moment où ils ont commencé à réfléchir, il y avait aussi on était passé juste après toutes les périodes de rachat où on a eu Neuf qui avait absorbé Club Internet, qui avait absorbé toute une série de petits FAI. Et en fait, SFR par ses rachats avait gagné des clients et Free se retrouvait, ça jouait d'un côté, ça gagnait, de l'autre côté, ça perdait. Donc du coup, mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, de plus en plus, Bouygues Télécom avait lancé une offensive en disant, voilà, on va réunir tout ça sous un truc qui s'appelle Néo. Et en fait, ça reprenait le système fixe et mobile. Et en fait, ce qu'Iliad a eu comme problème, c'est que il n'avait pas d'offre mobile à proposer en face. Et donc, du coup, les gens ne voyaient pas l'intérêt.
C'était Bouygues, oui, qui avait bien lancé avec Néo le quadruple play.
Le quadruple play. Et si tu veux, ça devenait vraiment un problème pour Free parce qu'ils n'avaient pas justement cette solution. Tu me confirmes, Johan?
Ouais, c'est ça. En fait, ils se sont retrouvés un peu à l'époque Freebox HD par là, où vraiment déjà leur box leur permettait plus de recruter autant, et puis où ils se sont rendus compte peut-être aussi qu'il y avait un plafond dans le sens où ils n'avaient pas accès au quadruple play et que c'est vraiment ce que les gens demandaient a priori. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à vraiment se pencher sur une licence 3G tout quoi, et puis le fait tout simplement que les pouvoirs politiques en place ont commencer également à être favorable à cette solution-là, ce qui n'a pas toujours été le cas.
On va y venir justement, puisque tu parlais donc de quadruple play. Avant, il y avait le triple play. Il se trouve que c'est Free vraiment qui a popularisé. Il y a eu une première offre triple play d'offre de vidéos via Internet, si je me trompe, à Hong Kong.
Oula.
Et après, c'est Free qui a lancé donc le triple play et qui a vraiment popularisé le triple play. Quoi.
En fait, il y avait déjà des solutions de triple play, même en France où Orange utilisait en fait TPS pour fournir en fait le décodeur. Et ça passait par la ligne. Mais le seul problème, c'est que c'était vraiment deux trucs séparés. Tu avais le double play, c'est-à-dire Internet et téléphone, avec la Livebox, avec la Freebox, avec la Neufbox. Et de l'autre côté, tu avais les services de CanalSat ou de TPS. Ça s'appelait TPSL en plus, juste pour la bonne blague. Et le truc qu'il y a, c'est que tu avais vraiment le problème, c'est que tu avais vraiment deux abonnements séparés. Là où Free avait déjà eu la très bonne idée, c'était justement de se créer son propre bouquet et de pouvoir comme ça fournir un service en entier. Il y avait Orange qui réfléchissait aussi à ça, mais ça restait toujours dans les cartons parce qu'ils étaient liés. Point lié avec TPS et Canal. Mais après, c'est vrai que Free a toujours été un troublion. Il a toujours mis en place des idées que les autres avaient pas forcément, mais on voyait poindre, mais on n'arrivait toujours pas à le voir en concret. Et Free, à chaque fois, arrivait, il disait, voilà, j'ai une box, j'ai du triple play, j'ai ce qu'il faut, quoi.
Ce qui a vraiment rendu ça possible, c'est le fait qu'ils aient prévu la box avant même de lancer le bouquet télé. Oui. C'est-à-dire que la box était déjà équipée en sortie Péritel, en puce de décodage MPEG, pour pouvoir lancer cette offre de télé qui est arrivée fin 2003. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même extrêmement tôt pour de la télé par ADSL. C'est surtout là-dessus, en fait, parce que je pense que tout le monde s'y préparait, mais qu'en fait, Free a eu l'idée de sortir la box avant.
Les offres avec TPS et Canal, c'est 2002. C'est-à-dire, c'est juste, l'un avance, allez, on va faire des essais avec TPS, avec les trois autres, et t'as Free qui se ramène derrière en disant, voilà, j'ai tout en bloc. Je propose tout de bloc.
Oui, et puis surtout, c'était la box, c'était oui. dans la comprise dans mmh. l'abonnement, ce qui n'était pas du tout de, le cas pour CanalSat et TPS.
Non.
Free avait une publicité qui avait fait une suite de publicité à la fin des années 90 quand ils ont lancé la DSL, qui était hallucinante. La toute première avant le lancement de la DSL, donc c'était avec un marin et qui voyait une prostituée et le marin lui dit c'est combien, c'est gratuit, et donc c'était c'était l'avalanche de pubs. Quel pouvait être le business model de Free à cette époque-là? Comment ils pouvaient faire de la offrir vraiment de l'accès à Internet sans avoir à mettre des bandeaux et des bandeaux et des bandeaux de pubs dans les pages de navigation? Quel était leur truc? La dette?
C'est un petit peu compliqué, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, ils jouaient surtout sur l'astuce que eux, ils proposaient pas un forfait. Enfin, pas qu'un forfait, parce qu'ils avaient aussi un forfait 50 heures. C'était surtout vraiment l'astuce de dire free égale gratuit, dans le sens où, à l'époque, gratuit, c'était le coût de la communication. C'est ça, en fait, que ça voulait dire.
Et après, il y a eu donc l'arrivée de la DSL, là où Free a été très fort. Il y a eu un documentaire qui a été fait par France 5, qui a été diffusé par France 5, où on est dans les, on suit le patron de Club Internet.
Non, c'était AOL.
C'était AOL, pardon. À France. Au moment où, justement, Free annonce que, on va faire la DSL au même prix, et les montées de débit vont être toujours au même prix. Est-ce que finalement c'était pas une certaine preuve que c'était plus les techniciens que les commerciaux qui sont au pouvoir?
Bah, on en a la preuve, hein. Je veux dire, il suffit de regarder Rani Assaf, qui est toujours encore considéré comme le numéro 2 stratégiquement de Free, juste derrière Xavier Niel. Oui, et puis Xavier Niel lui-même qui a quand même un certain bagage technique, sans être pour autant derrière le réseau, je veux dire. Je pense que lui-même comprend un petit peu de quoi il parle, et je pense que c'est ça aussi qui a changé la donne, c'est-à-dire que effectivement c'était des techniciens qui dirigeaient l'opérateur.
Tu le vois aussi parce que dès qu'il y avait une nouveauté, dès qu'il y avait quelque chose, une amélioration, c'était un truc de technicien, c'est-à-dire tu faisais monter, tu vois que la technologie ADSL te monte à 8 mégas, te monte à 20 mégas avec le plus. Tu le faisais bénéficier automatiquement, t'avais pas besoin de réfléchir à on va faire un pactage à 4 mégas, on va faire un pactage à je sais pas combien. C'était vraiment des trucs de technicien, et le commercial à chez Free, je le cherche encore, moi.
D'un autre côté, on a parlé de croissance. Free n'a acheté, à ma connaissance, qu'un seul opérateur, Alice. Le fait que justement ils avaient une grande cohérence au niveau national, là où SFR, c'est enfin, il y a que Free et Orange qui avaient... Non, même Orange, je suis pas sûr qu'ils avaient une aussi bonne cohérence de réseau. Mais est-ce que ça a aidé justement à faire des grandes économies d'échelle plutôt qu'essayer de racheter des groupes d'utilisateurs?
Ça a été un petit peu compliqué. Le rachat d'Alice, faut savoir qu'ils ont mis quand même très longtemps à vraiment absorber complètement le réseau, à faire en sorte que ce soit vraiment intégré. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont racheté plus des équipes. Donc effectivement, ils ont récupéré un certain nombre de centres d'appel à Bordeaux. Je me souviens plus
Marseille,
exactement.
Bordeaux, Marseille aussi. Ouais. Il y avait Marseille et Alice. Ils en avaient un autre. Je sais plus où est-ce qu'il est. C'était dans le Nord, mais là j'ai plus le nom. Je me souviens surtout de Bordeaux et de Marseille parce que après il y a eu des discussions autour de ces deux sites. Mais pour ce qui s'agit de le truc qu'il y a, c'est que la plupart des opérateurs qui ont été rachetés par SF, enfin par Neuf à l'époque, c'était surtout des utilisateurs de son propre réseau dégroupé. Donc du coup, c'était plus un rachat de bande, de base de clientèle, que réellement un rachat de pour donner une petite idée, le Club Internet, ça a été un cas particulier parce qu'en fait, ils ont racheté la base de d'abonnés et ils ont revendu tout le matériel, tout le réseau à Bouygues Télécom. Et c'est à partir de ce réseau que Bouygues Télécom a pu lancer son offre fixe.
Tout à fait.
Après, pour ce qui s'agit de Free Alice, il faut se souvenir qu'Alice, c'est les anciens de Tiscali, ça avait racheté Tiscali, qui lui-même avait racheté Liberty Surf, toute une série derrière. Il y en a quatre. Mais le truc qu'il y a eu, c'est comme le dit Johan, c'est-à-dire que quand ils ont racheté Alice, ils ont racheté un réseau qui était quasi identique, il y avait beaucoup de doublons. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord dû décrocher tous les anciens abonnés à Alice et le mettre sur leur réseau, récupérer les éléments de dégroupage et les envoyer sur d'autres centraux téléphoniques de telle manière à pouvoir comme ça profiter justement de ces doublons et de s'étendre. Mais ça a mis du temps et surtout, il a fallu adapter les techniques qui étaient utilisées chez Alice et pour les maîtres chiffrés.
Quand il y a eu donc la possibilité d'ouvrir un quatrième réseau de téléphonie sans fil, je vais dire, voilà.
Téléphonie mobile.
Je cale, voilà. Certains disent que Sarkozy n'était pas d'accord, que Fillon était d'accord et que donc il y a eu un bis-bis au niveau du pouvoir qui fait qu'il y en a un qui a profité. D'autres disent que Free n'était pas tenté pour installer des boîtes noires sur son réseau téléphonique pour les renseignements généraux et que ça a été la carotte qui a été utilisée. Est-ce que vous, ça vous semblerait être des scénarios plausibles ou purement de la parano?
Moi, ça me paraît un peu paranoïaque. Après, il faut se souvenir que Free, ils ont pas eu leur licence du premier coup.
Oui.
Ils avaient fait une première tentative qui était en 2007. Où effectivement ils avaient fait un dossier. La question de la quatrième licence 3G était déjà évoquée, donc ils ont fait un dossier et le dossier a été rejeté. Alors c'était à l'époque où c'était effectivement Christine Lagarde qui était à l'économie, si je ne dis pas de bêtises. Je laisserai chacun dresser des parallèles.
J'hésite parce que je ne me souviens plus si c'était encore parce que 2007 c'était changement de pouvoir. Et en fait, je me souviens plus si c'était encore le dossier qui était encore géré par Thierry Breton, qui était le ministre de l'économie, avant de repartir à Change.
Que ce soit l'un ou l'autre.
Ouais, de toute manière, c'était. Non, le truc qu'il y avait aussi, c'était que sur cette première tentative de licence, c'est qu'il y avait un concurrent pour Free, c'était Virgin Mobile.
MVNO qui voulait devenir son propre opérateur plutôt que louer du réseau.
En l'occurrence celui de SFR. Et en fait, c'était Orange et SFR. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'ils avaient vraiment une intention de prendre du réseau, Et le truc qu'il y a, c'est que finalement, ni Virgin, ni Free n'avaient fourni tous les deux éléments du dossier. Moi, je me souviens qu'il y avait eu un problème autour du prix, mais parce que à l'époque, Thierry Breton avait foutu une somme qui était infaisable, quoi. Quel que soit l'opérateur, parce que j'avais entendu que Énergie avait sorti le dossier. Pourtant, il y a le Crédit Mutuel et le CIC derrière, et pourtant ils n'ont pas passé la sélection, quoi.
Non, à l'époque, on en était encore avant le fait que tu veux passer de la 2G à la 3G, c'était plus 150 € mensuels, quasiment.
Ouais, quoi. Quasiment, ça, c'était à peu près
c'était,
ça. Ouais.
C'était un peu la folie. Vous écoutez CPU, donc on est avec Infosec Grunt et Johan Ferré et on va faire une petite pause téléphonée. Je suis désolé.
Connected.
Allez, je mets fin au supplice pour une facette grunt parce que je crois que Johan a déjà trouvé. Il s'agit des Kraftwerk à The Telephone Call, extrait de l'album Electric Café. Et d'ailleurs, puisqu'on est au début du Tour de France, il se trouve que Kraftwerk a dessiné un vélo d'un des coureurs. Vous êtes sur Radio FMR et vous écoutez CPU, donc consacré aux 5 ans de Free Mobile avec une facette grunt et Johan Ferré. Et le surnom d'ailleurs de cette émission, c'est Coucou Networks, si oui. Vous voulez savoir. Vous savez peut-être pourquoi. On va peut-être aussi parler des Romain Michel. Là, on va plutôt parler de qu'est-ce qu'un opérateur mobile à la base. Je suppose que d'abord, il y a bien évidemment, il y a une infrastructure de facturation et une infrastructure de gestion de numéros. Donc, quelles sont à peu près les pièces indispensables pour construire un opérateur mobile avant déjà, de passer à l'émetteur?
Déjà, avoir un réseau fixe pour faire un réseau mobile, c'est-à-dire il faut déjà une infrastructure qui va être en fibre optique, qui va être en général, voilà, ce qui s'appelle un backbone, c'est-à-dire des câbles qui courent à travers toute la France, parce que ça va être plus ou moins indispensable pour venir y brancher ces antennes, et ça c'est le deuxième point. Les antennes, la plupart sont effectivement branchées soit en filaire, soit en hertzien. Alors dans ces cas-là, on va avoir des
c'est du faisceau en hyperfréquence en
ouais,
général.
C'est ça, du FH, ouais.
C'est ça. Et donc du coup, bah c'est un peu ça les deux aspects importants. Il faut avoir un réseau fixe pour ensuite bâtir des antennes dessus, quoi. C'est un peu ça un opérateur mobile.
Et ensuite, tu as besoin d'une base de données pour vérifier, enfin pour avoir les abonnements, pour avoir les liaisons avec la carte SIM. Tu vas avoir besoin d'une petite base de données pas trop loin des antennes, telle manière que tu as un petit système de cache de réplica, et tu vas avoir deux autres serveurs, entre guillemets, un qui va être spécialisé dans la voix, et un qui va être spécialisé dans l'accès Internet, dans la data principalement. Mmh.
Quand Free avait dit, une fois, que le gros avantage en fait de leur structure, c'est qu'ils en maîtrisent, ils le maîtrisaient très bien techniquement, mais qu'en plus, la téléphonie passait par l'IP, donc ça simplifie les choses.
Pour qu'ils maîtrisent, oui, ça c'est vrai, parce qu'en fait toutes les antennes sont reliées.
Enfin, ils avaient dit que leur réseau était full IP, si je me souviens bien.
Alors après, ouais, ils avaient parlé de full IP, mais moi je me souviens que pour ce qui s'agit de la maîtrise, ils disaient, on utilise notre réseau dégroupé, des gens ont trouvé des antennes relais de chez Free qui étaient connectées en SDSL. Donc
c'est les pas Freebox derrière.
Voilà, c'est limite s'il y avait
exactement.
C'était des Freebox qui étaient derrière. Et par contre pour ce qui s'agit du tout IP, ça c'est vrai que c'était un truc qui était dit, mais c'était dit pour la partie arrière, je dirais. Après non, il me semble que pour la 2G, enfin pour la 3G, ils utilisaient full IP, je crois que c'était juste pour narguer les autres, c'est tout.
Orange a son propre réseau. Bouygues et SFR, d'après ce que j'ai compris, il y a un mix, voire même ils ont sous-traité en fait la gestion de leur réseau. En fait, donc il y a plus que de 4 réseaux en France.
Non, moi là-dessus, enfin pour ce qui s'agit en fait de SFR, de Bouygues, en fait ils ont, il y a de la mutualisation, c'est-à-dire que il y a certaines antennes qui sont mutualisées et pour Bouygues et pour SFR. Il y a aussi des antennes qui sont, là ça par contre c'est les cas des zones blanches où là c'est pour les 4 opérateurs, ça commence à se développer. Tranquillement, il y en a là le jour où on enregistre, il y a même un qui a été ouvert dans les Pyrénées récemment. Donc là aujourd'hui, ils ont juste ouvert un truc.
Oui, on est lundi 5. Lundi 3, pardon, lundi 3. Excusez-moi.
Et ils en ont ouvert un du côté des Pyrénées Atlantiques. Mais après, pour ce qui s'agit de, comme le réseau en fait, le réseau fixe, ne serait-ce même que le réseau fixe, il se partage déjà les backbones. Moi qui ai fait une visite d'une centrale téléphonique, même à l'intérieur de, même pour Orange de temps en temps, il passe par un autre opérateur. Ça peut être SFR, ça peut être Free, ça peut être Colt, c'est d'autres opérateurs, mais qui sont plus au grand public. Et après, pour ce qui s'agit du réseau mobile, ça arrive qu'il y ait ce qu'on appelle du partage, de telle manière à ce que ça réduit la consommation. Mais après, pour ce qui s'agit de Free, non, j'ai pas, enfin, pour ce qui s'agit des trois grands, j'ai pas eu de gros cas, on va dire.
Après, c'est peut-être tout simplement le fait que beaucoup font appel à des prestataires pour ce qui est de l'ordre des supports, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les antennes eux-mêmes y gèrent, mais les supports, ils font appel à des sociétés comme TDF et compagnie. Ça va vraiment plus être de la construction le genre de métier dans le ils sont pas forcément très très habitués eux-mêmes, donc ils font appel à des sous-traitants.
Donc il y a aussi donc les émetteurs eux-mêmes, donc chaque cellule a son émetteur, donc ça signifie que dans l'émetteur, il y a quoi? Il y a juste un petit poste et une antenne, ou c'est quand même largement plus complexe?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, il y a ce qu'on appelle, on a un site. C'est-à-dire, ça peut être le toit d'un immeuble, ça peut être une église, ça peut être un château d'eau, ça peut être une antenne relais, un pylône, un vrai pylône. Et en fait, les opérateurs installent jusqu'à 4 antennes pour couvrir 90 degrés ou 120 degrés ou 180 degrés, ça dépend des modèles d'antennes, de telle manière à ce que toute une région soit couverte. Mais par rapport à un site, tu peux avoir jusqu'à 4 antennes par opérateur.
D'accord. Et derrière, donc, il y a un émetteur pilote, c'est amplifié, c'est comment que c'est standardisé maintenant le matériel qu'ils utilisent?
À vrai dire, oui, enfin, c'est standardisé au niveau des fréquences. Après, au niveau du matériel, je dirais qu'il y a tellement de marques que
t'as dû. Il y a autant de standards que de marques.
Voilà. Donc, si tu veux, ce qui est commun, c'est les normes de communication. Mais après, au niveau du reste, enfin du matériel, c'est tu peux tomber sur du chinois, du finlandais,
Huawei, Ericsson. Mais une fois que tu es chez l'un, tu es coincé avec tout son matos.
Non, c'est pas forcément. Mais si tu veux, c'est si tu as installé une antenne avec du Nokia. Si tu veux pouvoir utiliser, si un autre opérateur veut se ramener, il faudra qu'il utilise lui aussi du Nokia sur ce site.
Ah d'accord. Donc si c'est mutualisé, c'est carrément l'équipement qui est mutualisé.
Alors ça dépend. T'as différents niveaux. C'est en fait maintenant la plupart des antennes, surtout en centre-ville, ce sont des antennes, on va dire un peu plus dans la forme d'un relais. Mais en fait, ils ont un même équipement. En fait, au bout de l'antenne, il y a un équipement. C'est lui qui va faire transiter dans le backbone. Et en fait, cet équipement-là, tu peux le partager à plusieurs antennes. Et c'est le cas, notamment dans les centres-villes, dans les grandes villes, où en fait, tu vas avoir une dizaine d'antennes qui vont être reliées au même équipement. Et à partir de là, ça distribue. Et tu peux avoir aussi du relais par le FH, justement, par les fréquences hautes, et là ou encore c'est toujours cet équipement qui est l'intermédiaire entre le backbone et l'antenne mobile qui va te permettre justement de gérer les communications. Enfin, c'est lui qui fait l'aiguillage, j'ai envie de dire. Johan?
Oui, non, c'est très bien expliqué.
faut dire que j'ai fait tellement de trucs de site, justement.
Moi, je me pose des questions quand même. Quand tu dis que tu as visité les centres téléphoniques, si tu l'as fait vraiment en clandestin, parce que...
Alors...
si c'était guidé.
Alors, il y avait du guidé, pour la plupart, mais il y avait deux ou trois où j'ai vraiment fait du clandestin, en l'occurrence pour Viella. C'était guidé en bas, mais j'avais pas envie de suivre le président de la dépêche. Et j'ai préféré aller voir l'antenne qu'ils avaient utilisée. Donc là par contre
à trop en dire, fais gaffe, tu vas te retrouver blacklisté. Après, il y a l'interconnexion entre les opérateurs. Comment cela se passe? Est-ce qu'il y a des points de relais comme on a sur le net, donc des points d'échange, ou comment se passe en fait même le principe même de facturation? C'est relais de compensation comme les banques?
Non, en fait, pour ce qui s'agit de la mutualisation, en fait, on est un peu sur le même principe que sur le dégroupage en fixe. C'est-à-dire que tu as une antenne, des équipements, justement, de gestion. Et en fait, en fonction de ce que tu demandes, enfin, un dégroupage plus ou moins léger. Et en fait, tu vas avoir soit le dégroupage de l'antenne, c'est-à-dire qu'on partage uniquement les équipements de l'antenne, ce qui fait que tu n'as plus que 4 antennes sur un même support. Et à ce moment-là, tu as un partage des fréquences. Et ensuite, tu as jusqu'au site en bas. Et là, à ce moment-là, il suffit juste que les opérateurs viennent juste se brancher sur ce site. Et après, l'autre là-haut s'occupe d'émettre.
D'accord.
Après, pour ce qui s'agit de la facturation, ça, c'est un autre truc. En fait, c'est un serveur qui est d'habitude dans les centres de l'opérateur. Et en fait, lui, en fait, il va ce serveur va dire, ben voilà, j'ai une carte SIM, elle est liée à tel abonné. Et en fait, cet abonné, bah, il a droit à quoi? Bah, il a droit à l'internet, il a droit à tant d'heures de data, il a droit à la data, il a droit à l'OSMS, il a droit à un truc comme ça. C'est ce qui s'était passé en 2012 avec la panne de réseau d'Orange. C'était justement ce serveur qui disait, qui donnait les droits pour tout le monde, qui en fait était tombé en panne. Donc, tous les abonnés qui utilisaient le réseau d'Orange étaient, avait une impossibilité de communiquer, sauf ceux qui avaient eu la chance de rester sur la même antenne, vu qu'il y avait un système de cache au niveau de l'antenne. Ça a aidé, les abonnés ont pu continuer à appeler, mais alors que les autres, dès qu'ils changeaient d'antenne, paf.
D'un autre côté, on a vu qu'il y a pas du tout besoin de magasin, puisque Free Mobile est vraiment l'exemple qu'ils ont pu se passer complètement de magasin en relais. Moi, je me souviens quand SFR et Bouygues se sont installés, il y a aussi le Hola Toulousain, etc. À chaque fois, il fallait des boutiques franchisées. Les boutiques franchisées, moi, je me souviens d'un chiffre qui m'avait effaré en 2011. On m'avait dit que quand tu prenais un abonnement de 12 mois, le franchisé prenait entre 3 et 4 mois pour lui.
Ouais, mais ça, en fait, c'est lié plus au fait que Free dépense vraiment très peu par rapport aux autres opérateurs pour faire du recrutement. Et c'est d'autant plus vrai quand on observe le modèle qui était vraiment généralisé avant l'arrivée de Free Mobile. Les opérateurs dépensaient vraiment, mais presque un an entier de forfait pour réussir à recruter un client. Et là-dedans, ça comprenait vraiment ce qu'on offre aux franchisés, le coût des boutiques propres aussi. Le coût des offres promotionnelles, le coût du petit téléphone qui est offert lors du début de l'abonnement, enfin voilà, le démarchage, c'est vraiment des coûts que Free a réduit énormément. Alors ils ont quand même ouvert quelques boutiques, hein, ils ont bien été obligés, mais ça reste un réseau finalement assez peu important.
Si tu veux, le réseau de boutiques, il était surtout là pour répondre en fait à une demande, c'était que les gens voulaient des boutiques Free parce qu'en fait pour certaines personnes, à la base, c'était plutôt pour proposer les téléphones, pour montrer les téléphones. C'était un gros avantage pour le réseau de boutiques d'Orange, de les espaces SFR, les clubs Bouygues Télécom et autres. C'était que tu pouvais tester les téléphones. Tu pouvais voir.
Tu pouvais voir.
Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce besoin-là. Et donc, si tu veux avoir une boutique, c'est justement, tu vas attirer cette clientèle-là. Parce que la plupart de ceux qui, d'habitude, prennent Free Mobile sont des personnes, ils connaissent les téléphones un peu comme toi et moi ou même Yohan. C'est-à-dire que on connaît à peu près ce que valent les téléphones. Même si on teste pas forcément, mais on lit les tests de nos confrères, on lit les tests des sites et on se dit, bah voilà, ça, c'est une bonne idée, un truc comme ça. Mais tu as des personnes qui, eux, ne pensent pas à faire ce comparatif-là, ces choses-là. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment de tester, de voir la machine. Et ça, les boutiques, ça, c'était l'avantage, on va dire, d'avoir un réseau de boutiques. C'est justement, tu as de voir des clients qui vont pouvoir y aller.
Alors, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un deuxième aspect qui avait été évoqué aussi, c'est le fait qu'il y a une certaine catégorie de clients qui sont tout simplement pas en confiance pour dégainer leur carte bleue ou leur RIB sur Internet. Qui était jusque-là vraiment le seul moyen de s'abonner à Free.
Ouais, oui. Je comprends un peu.
Non, mais ce qui est très amusant, c'est qu'au début, enfin les débuts des free centers, quand ils n'avaient pas encore de bornes dédiées, en fait l'inscription, quand on venait en boutique pour s'inscrire, c'était tout simplement un ordinateur connecté à Internet et tu t'inscrivais sur le site de Free. Mais il y avait la confiance. Voilà, c'est.
Au moins l'antivirus est censé être à jour dans les boutiques, quoi.
Ouais, et puis il y en a quelqu'un à côté, je sais pas, c'est peut-être rassurant.
Il y avait souvent, moi je vois pour les quelques boutiques que j'avais pu visiter à l'époque, c'était à Agen, c'était un peu partout, c'est vrai que ça rassurait les gens d'avoir quelqu'un à côté qui peut lui expliquer éventuellement comment on met le RIB ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est la présence physique est toujours quelque chose de rassurant. Et donc au départ, c'est vrai que démarrer avec sans boutique, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça te permet d'avoir la population technophile. Mais par contre, dès que tu commences à avoir des personnes qui sont un peu moins, qui ont besoin un peu plus de sécurité, avoir une personne physique, comme tu dis, pour râler, c'est toujours un bon moyen.
On va faire un break avant de passer à la dernière partie. On va quand même faire le bilan des 50 Free. Et encore une interruption, ma foi, téléphonée. Yeti Lane, Strange Call, extrait de leur album The Acre Show, sorti en 2012. Tiens, l'année de la sortie du réseau Free Mobile. Vous écoutez Radio FMR. Et vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, où on parle de Free Mobile avec Johan Ferré et Infested Grunt. Bah ouais, 2012, c'était il y a 5 ans. Et dans la suite documentaire Les quatre couleurs du capitalisme, on voit le coup de poker d'Orange, où Orange était à l'époque et reste toujours d'ailleurs l'opérateur le plus cher pour les forfaits, mais le plus solide, et comment ils sont associés avec Free qui allait complètement casser les prix. Est-ce que à l'heure actuelle, Free est capable de se passer d'Orange ?
Ça dépend ce que tu appelles se passer d'Orange.
Voilà, je vais te poser la même question.
Est-ce qu'ils en sont capables ? D'un point de vue couverture, d'un point de vue purement commercial, ils en seraient capables, si tu veux. C'est juste que certains abonnés ne capteraient plus forcément chez eux. Et ça, c'est très difficile.
Parce que ce qu'il faut voir, c'est que Free a une licence 3G, mais n'a pas de licence 2G. Et la licence 3G qui a lui a été...
Alors ça, si je me trompe, il y a un règlement européen qui a été mis en service il y a 3 ans, qui fait que quand on a une licence pour une technologie dans une gamme de fréquences, on peut faire au final ce que l'on veut dans cette gamme de fréquences tant qu'on déborde pas.
C'est pas exactement ça. On peut en faire la demande auprès de l'ARCEP qui éventuellement validera ou non. Et puis il faut quand même y consacrer certaines fréquences. À la base, Free a un droit à l'itinérance uniquement 2G. Mmh. Le fameux coup de poker qu'ils ont eu avec Orange, c'est qu'ils ont réussi non seulement à signer avec Orange, on s'y attendait pas forcément, mais en plus à obtenir en plus de la 3G. C'était pas du tout prévu réglementairement.
En plus de l'aveu même de Xavier Niel et autres, Orange n'avait pas proposé le contrat le moins cher.
Ouais, ils ont même pas essayé de trop insister, quoi, d'après ce que j'ai compris.
C'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup insisté, mais c'est surtout qu'ils sentaient que, à l'époque, tous les résultats et autres mettaient Orange en tête, SFR un peu derrière et Bouygues troisième, quoi, comme d'hab.
Puis au-delà de ça, je pense qu'il y a une petite dimension stratégique quand même qui consiste à dire Orange, on les coulera jamais, c'est impossible, c'est Orange.
déjà les couler.
non, mais c'est avec eux qu'il faut s'associer, tu vois, plutôt qu'avec SFR ou Bouygues, sachant que Bouygues est quand même en mauvaise posture depuis l'arrivée de Free. Je pense, enfin, connaissant un petit peu Xavier Niel et Iliad d'une manière générale, je me dis que ça a aussi joué dans la prise de décision. C'est obligatoire.
T'avais surtout une grosse rivalité entre Martin Bouygues et Xavier Niel,
oui.
Qui s'est matérialisée avec justement les fameux Romain Michel et les...
Alors ça, d'après ce que j'ai compris, l'histoire des Romain Michel, ça venait en fait de ce que l'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des MVNO genre Virgin. C'était pas ciblé vis-à-vis de Free.
Non, mais c'est vrai que quand tu regardais à l'époque en 2012 les MVNO, tu avais plus de la moitié qui était sur le réseau de SFR, et ensuite tu avais ce que j'appelle les cartes prépayées ethniques, hein, c'est-à-dire c'était les Baras, c'était à l'époque c'était Phoenix Mobile, je m'en souviens, il y avait même Saint-Hubert Mobile, ça c'est pour les chasseurs, tu vois. J'ai découvert ça il y a un petit moment, j'ai été là, oula, ok. Mais si tu veux, pour eux, c'est eux, comme ils utilisent le réseau d'un opérateur et qui achètent à la minute, et ils font pas vraiment, c'est juste, pour eux, c'était juste un abonné comme les autres. Mais là, le truc qu'il y a, c'est que vraiment, Free, il venait sur le réseau d'Orange, justement, le coup du coucou, de dire que c'était la stratégie du coucou, c'est-à-dire ils se mettaient sur le réseau d'Orange et ils attendaient ensuite de se développer pour proposer autre chose. Mais si tu veux, il y avait une rivalité, on voyait cette rivalité entre Xavier Niel et Martin Bouygues juste sur la partie réseau. T'avais Stéphane Richard qui regardait les balles passer, mais
on l'a toujours d'ailleurs sur la proposition de revente du réseau de Bouygues que Free voulait casser les prix pour les boutiques, quoi, d'après ce que j'ai compris.
Oui, lorsqu'il y a eu la tentative de rachat autant par SFR que par Orange de Bouygues Télécom.
En fait, c'était les trois qui dépeçaient Bouygues. Quoi.
C'était les trois qui dépeçaient Bouygues. Pourquoi ? Parce que réglementairement, tu vires une licence. Le rachat. Les autres, ils ont exactement les mêmes licences. C'est copier-coller. C'est juste des histoires de je suis à la station à côté. Je suis pas sur 89.1, je suis sur 94, voilà. Je suis juste le truc à côté.
C'est 94, tout court, campus. Oui, voilà, salut.
Voilà. Donc, du coup, si tu veux, ils sont quasiment face à face. Free, il n'a que la licence 3G et une licence 4G et pas de licence 2G. Donc, du coup, ce qui se passait, c'était que SFR lui visait les abonnés, Free visait le réseau, et pour les boutiques, c'était Free for all, c'est-à-dire qu'il y avait des boutiques qui intéressaient Orange, il y avait des boutiques qui intéressaient SFR, et Free, eux, ils étaient en train de dire, ouais, bon, on peut récupérer éventuellement. Mais, à chaque fois que le dépeçage était possible pour de Bouygues, c'est vrai que Free était juste derrière, en train d'essayer de baisser les prix, et à chaque fois, soit ça calait, soit ça ratait, quoi.
Et ça a eu même des conséquences un petit peu gênantes, parce que Free, tant qu'ils se disaient, nous, on va pouvoir récupérer une bonne partie du réseau de Bouygues, ils ont pas déployé très rapidement non plus leurs antennes. C'est assez logique, vu qu'ils se disaient, on va peut-être avoir un réseau tout près, clé en main, d'ici quelques années. Et a priori là, ils sont vraiment résignés. Quand on observe leur déploiement plus récent, ils sont vraiment résignés. Ils sont vraiment mis à dire, on en a marre, on déploie entièrement notre propre réseau, quoi.
Est-ce que ce qui a ralenti aussi le réseau de Free, c'est pas uniquement l'idée de racheter ou de monter dans un autre opérateur, c'était aussi les prix qui devenaient de plus en plus effarants sur les droits d'usage en haut des immeubles? Et en même temps, les collectifs anti-ondes qui arrivaient à diffuser leur argument entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est surtout ça. C'est beaucoup plus ça. Qu'une question de prix, en fait. C'est vraiment une question de blocage. Alors pas forcément que des associations anti-ondes, même si c'est vrai qu'il y en a forcément, ça contribue à mouler un petit peu l'opinion publique, ne serait-ce que du côté des mairies et qui considéraient en fait que c'était de leur rôle de décider si oui ou non tel opérateur a le droit de venir s'installer dans leur ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins observé à l'époque où Orange, SFR et Bouygues ont déployé leur propre réseau, ce qui remonte déjà à quelques années. Il y a eu une sorte de ras-le-bol en fait de la part de certains maires qu'on dit. Bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'on laisse les antennes arriver. Maintenant, ça suffit. Sauf que maintenant, c'est Free qui déploie son réseau, quoi. C'est pas le même. Voilà. C'est surtout ça. C'est vraiment ce blocage-là.
Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est qu'il y avait le déploiement déjà, la plupart du temps, Orange, Bouygues et SFR ont déployé leurs antennes 3G ou 4G sur des antennes qu'ils avaient déjà. Là, le truc qu'il y a, c'est que t'as un quatrième qui se ramène. Déjà, t'avais une petite friction avec les trois autres, donc du coup l'accès à certains points hauts qui sont déjà accessibles pour les autres opérateurs, Free il rechignait à les indiquer, et en même temps qu'est-ce qui passait, la seule solution c'était on crée une nouvelle antenne, et donc du coup c'est passage devant la mairie, passage devant pour la commission pour le permis de construire, pour les trucs comme ça. Donc du coup les maires ont profité pour dire on a déjà l'antenne de SFR à un endroit, l'antenne d'Orange à un autre, l'antenne de Bouygues sur la troisième façade, et vous voulez m'en rajouter une quatrième? Au bout d'un moment,
une école 42, une station F dans ma commune, tant pis.
Pas à l'époque, je te rappelle.
D'accord. D'un autre côté, Free n'a pas été forcément très très bien. Il y a une histoire d'un plantage absolument monumental que BFM Business d'ailleurs a réussi à reconstituer par un jugement qui a eu lieu au Prud'homme. Donc ça, on mettra les liens sur le site cpu.pm. Justement, le lancement de Free, qu'il y ait eu comme ça le site inutilisable dans tous les sens, ça s'est passé comment au final?
Je te laisse, Johan, parce que le truc était un beau gros, je te le laisse.
Ah oui, non, mais ça a été tellement compliqué. Moi, faut savoir déjà, évidemment, avec tous les autres journalistes, le matin du lancement de Free, on était évidemment chez Free, au siège social.
Pas tous.
Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi, parce qu'il y avait en coulisses, ça ne faisait pas la tête que ça devrait faire. Dès le début, il y avait quelque chose qui clochait un petit peu. On n'avait pas très bien compris pourquoi initialement, mais c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte, que le système d'inscription était complètement planté, qu'il y avait peut-être quelques inscriptions qui étaient passées, mais que genre, on n'était même pas sûr qu'elles étaient vraiment prises en compte dans la base de données. Enfin, c'était un gros bordel. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah il y a notamment un des salariés de Freemobile à l'époque qui a pris sur lui de refaire mais quasiment entièrement le système d'inscription, mais en même pas 24 heures, je me souviens plus en combien de temps c'est redevenu accessible. Il me semble que c'était un peu moins de 24 heures.
15 heures à peu près.
D'après ce qu'il dit, c'est Rani qui a passé 3 jours non-stop dessus, quoi.
Oui, alors bon, ça, oui.
Après, il y a la légende.
On peut voir les commits sur Git.
C'était CVS, je te rappelle à l'époque.
Voilà. Non, c'est vrai que ça avait été un peu le petit foirage là sur ce coup-là, mais bon, en même temps, un nouvel opérateur qui se lance, c'était obligé que des gens y aillent les yeux fermés, surtout en voyant la proposition commerciale.
J'ai dit, on tombait de 100 € à 20 €, ah, oui. 16. Ah,
moi, tu vois, au départ, j'avais attribué
ça. Même les cartes prépayées, comment ils se sont pris dans la gueule. Le business des cartes prépayées depuis les 5 ans après de l'arrivée de ce forfait à 2 €, il en est où?
Pour le marché du prépayé, alors actuellement il est toujours en baisse constante depuis 2012, mais il commençait déjà un peu à baisser déjà avant, depuis 2011, depuis l'arrivée des contrepoids, j'ai envie de dire. Le marché du prépayé, là actuellement il est en dessous du million, il est en dessous de 15 millions, je crois, encore de cartes SIM, je me souviens plus des chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, mais si tu veux, c'était une dégringolade complète là par rapport à 2012, le chiffre divisé par 5.
Ah oui, quand même.
5 ou 4, il me semble, c'est énorme. Mais justement, le forfait d'appel à 2 € a complètement fracturé tous les prépayés. C'est simple. La plupart des offres prépayées qui existaient à l'époque, il y avait Casino Mobile, il y avait Carrefour, il y avait tout le monde qui s'était foutu au moins sur le prépayé. Ben maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben il reste plus que Réglo Mobile de Leclerc, il reste plus que ce que j'appelle les techniques, les Barra, l'ICA. Franchement, ça a été là le 2 €, il les a vraiment tués, et les réponses également. Hein.
C'est pas que le 2 €, c'est aussi une certaine généralisation du forfait, sans engagement.
Oui,
parce que ça, c'était aussi un gros créneau avant Freemobile. Essentiellement, la manière de faire du sans engagement, c'était de prendre du prépayé. Et depuis, même pour les forfaits à 19 €, maintenant, il y a énormément de sans engagement, et c'est vraiment ça qui a tué le prépayé aussi. Oui.
On va conclure parce qu'en fait on commence déjà à bien déborder et Monique Blanquet à mon avis pendant le direct elle va me tuer. Deux choses, l'ARCEP a annoncé qu'ils avançaient l'appel d'offres pour les licences 5G d'après ce qui est annoncé. Vous pensez vraiment que les quatre opérateurs vont s'aligner ou ils vont dire non à l'État on pourra pas mettre autant d'argent pour la 4G?
Oh bah je pense que comme à chaque fois tous les opérateurs vont dire c'est trop cher et que comme à chaque fois ils vont tous participer à l'appel d'offres. Voilà. cela dit, est-ce que c'est pas un peu tôt? Bon oui, il me semble effectivement que dès 2018 c'est plus pour rentabiliser un petit peu toutes ces jolies fréquences plutôt que ça me semble pas très rationnel de tenir faire l'appel d'offres aussitôt quoi.
Tenir l'objectif des 3% aussi sur le budget de l'État. Dernière chose, Free est surtout présent en France, ils ont un opérateur en Suisse, un en Italie.
Non, Xavier Niel, un opérateur.
Xavier Niel, un opérateur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'un jour, il va finir par... ça semblerait logique qu'il commence à regrouper ou que c'est sa possession personnelle et qu'il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier?
Non, je pense clairement qu'il ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier parce que, tout simplement, quand on regarde la stratégie de Monaco Télécom, par exemple, ça n'a rien à voir avec Free. C'est pas les prix de Free, c'est pas les forfaits de Free.
C'est clair.
On en est à l'exact opposé. Et du coup, je pense que cette séparation-là, elle permet justement de garder, là où c'est possible, de garder justement cette différence-là. Par contre, on sait que Free va arriver très vite en Italie et là, pour le coup, ce sera vraiment opéré par Free. Même si l'offre s'appellera pas Free directement, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs.
Et pour terminer, donc on enregistre, on est lundi 3 juillet, le jour de première diffusion de cette émission, c'est jeudi 6 juillet. Qu'est-ce qui aura bougé d'ici là?
Apparemment, il y aurait un rougail in the launchpad à annoncer un compte Twitter Free Réunion, parce qu'en fait, Free possède un opérateur à La Réunion qui est Only, enfin c'est l'ancien Outre-mer Télécom, qui est maintenant une possession d'Altice, mais comme il y avait SFR et Altice, donc ça, il fallait pas qu'il y en avait un qui devait se revendre. Donc du coup, Entre-temps, je pense que Free aura lancé son offre à La Réunion. Et donc,
sachant qu'à La Réunion, les tarifs sont encore plus importants que ce qu'ils étaient en France métropolitaine.
Plus maintenant.
Ça a commencé à baisser.
Ça a bien baissé. D'accord. Et surtout, il y en a un qui avait tenté de jouer un va-tout là-dessus. Mmh. Et ça s'est pas mal passé au niveau de l'autorité de la concurrence. Donc,
D'accord. Johan, merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Infested, merci à toi.
Pas de souci.
À samedi pour toi à l'antenne.
Oh oui.
Et nous, on se donne rendez-vous donc, c'est la dernière de l'année, donc avec toute l'équipe. Donc je remercie bien évidemment, Chris, qui j'espère sera là à la rentrée. Gaël, Pierre et Anthony, qui donc ont lancé Kill It By App et ça semble être bien parti pour continuer. Myriam, avec qui j'espère qu'on va bien évidemment avancer. Toi, bien évidemment, Infested. Et Solarus, qui a trouvé le mode d'emploi du gamin et commence à le maîtriser, donc il va pouvoir être plus présent un peu plus à l'année. Donc en attendant, on va se quitter avec la version du générique qui servait uniquement pour les émissions gag et qui finalement va servir pour les émissions normales à la rentrée, parce que sinon on s'en sortirait pas. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était constituée de Daskritch, Chief Wireless Officer, avec la participation de Johan Ferré de Free News et d'Infacet Grunt de leséchosdunet.net. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU qui commençait sérieusement à surchauffer. Vous pouvez pas savoir l'honneur que ça a été. C'est comme vous laissez fin d'année. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. À part les parties musicales, elles sont toutes en Creative Commons, donc vous pouvez commenter et partager, c'est là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous le premier jeudi de septembre. Ce sera quelle date? Ce sera quelle date? Mais non, bouge pas petit curseur de merde, bouge pas, hein? Quoi ? Le 7 septembre ? Ok. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, sachez qu'il est presque midi et je cède le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Je te fais une grosse bise, Monique, et oui, je sais. Ciao, bye bye.